Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean Frédérix. Les maires en sont persuadés, la commune est la première collectivité de cœur des Français. Voilà ce que l'on peut lire en une du site de l'AMF au moment où des dizaines d'élus locaux sont rassemblés à Paris pour leur rendez-vous annuel, le Congrès des maires et des présidents de communautés de France, 97e du nom. Alors, il est vrai que les enquêtes d'opinion témoignent d'un attachement important à cette fonction, comparée aux autres types de mandats. La proximité du maire joue le plus souvent en sa faveur, dans l'image que s'en font ses administrés. Mais il n'est pas non plus à l'abri de la suspicion dont fait l'objet le personnel politique dans son ensemble. Les conflits autour du barrage de Sivens ou de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes témoignent aussi d'une forme de défiance à l'égard des élus locaux. Il y a tout juste un an, quelques mois avant les municipales, nous avions invité des maires de tous horizons politiques pour venir parler de leur rôle en matière de cohésion sociale. Ce soir, nous récidivons, cette fois pour poursuivre la réflexion entamée depuis la rentrée dans cette émission, autour de l'exercice de la démocratie. Les maires face à leurs administrés, mais aussi les maires face aux autres lieux de pouvoir. Comment exercer ces fonctions dans le cadre des intercommunalités, de la réforme territoriale, des restrictions budgétaires. 8 mois après les municipales, comment va la démocratie locale? C'est notre sujet du jour. Ils seront à nouveau 4 ce soir pour en discuter, mais 2 seulement participaient à cette émission il y a un an, dont vous, Geneviève Dariussec, bonsoir.
Bonsoir.
Maire MoDem de Mont-de-Marsan, ville de 33 000 habitants. Vous effectuez votre deuxième mandat, vous avez été réélu au premier tour en mars dernier. Vous présidez la communauté d'agglomération du Marsan. Pour discuter avec vous ce soir, quelqu'un donc qui était là aussi en studio l'année dernière, Jacques Auberti, bonsoir.
Bonsoir.
C'est également votre deuxième mandat que vous réalisez donc depuis mars dernier également, sous d'autres couleurs, celle du Parti Socialiste, dans un autre genre de commune, en tout cas par sa taille, 2500 habitants, à Aigues-Vives, dans le département de la Haute-Garonne. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, on était parti notamment de ce rapport des préfets qui témoignait d'une société en proie à la crise. Passion, c'était ce qui a été écrit, à l'exaspération et à la colère. Juste d'un mot, l'un et l'autre, est-ce que vous diriez que ce diagnostic que vous sembliez partager l'année dernière, ce diagnostic est encore valable aujourd'hui, Geneviève Dariussec?
Plus que jamais, puisque les conditions de vie de nos concitoyennes, globalement, ne s'améliorent quand même pas. Avec une hausse du chômage, avec un sentiment de surimposition et tout le corollaire, dont l'impression de vivre moins bien, de façon globale. Donc ce sentiment d'exaspération de la population est toujours prégnant.
Jacques Auberti ?
Sans doute une évolution, hein, effectivement, par rapport à ce que je disais l'an dernier. Hein, toujours du bien vivre ensemble, quand même, particulièrement dans ma commune. Mais effectivement, sans doute l'émergence d'un individualisme beaucoup plus marqué qui vient effectivement revendiquer, qui vient demander, qui vient quémander. Sans doute moins, justement, de ce que fait l'agora normalement en matière des démocraties locales et donc la nécessité de modifier notre relation en fait à nos administrés.
Alors on va voir si nos deux autres invités partagent le constat de cette évolution. Jean-Claude Lambion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire communiste de Morne-Allot, en Guadeloupe, une commune de 16 700 habitants. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans le dernier recensement 2011 de l'INSEE. Vous aussi, vous avez été élu pour la première fois en 2008, comme Geneviève Dariussec et comme Jacques Auberti. Vous réalisez donc là également votre deuxième mandat. Je précise que vous présidez l'Association des maires de Guadeloupe. Et puis, j'allais dire le doyen de notre plateau, en tout cas de par son expérience à la tête d'une municipalité, Philippe Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que vous avez été élu pour la première fois en 2001. Vous êtes maire UDI de la ville de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, une commune de 20 000 habitants. Vous êtes l'ancien président de Paris Métropole. Vous êtes actuellement vice-président de l'AMF, donc l'Association des maires de France, qui est en train de renouveler son bureau, le vote solennel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais enfin, en tout cas, aura lieu d'ici la fin de la semaine.
Demain.
Et puis, vous présentez présenté d'ailleurs sur votre site internet comme un professionnel du conseil auprès des collectivités locales. Alors ce sera d'autant plus intéressant d'avoir votre avis pour là aussi terminer un tour de table pour avoir à chacun d'entre vous votre sentiment. Vous, Jean-Claude Lambion, alors c'est vrai, quand on parle de la Guadeloupe et quand on parle de climat social, évidemment, on repense à janvier 2009, la grève des stations-service qui s'était transformée en grève générale dans l'ensemble des Antilles françaises. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui, en quelques mots, ce climat social en Guadeloupe ?
Le climat, on peut dire que même s'il y a encore des problèmes qui sont prégnants, le climat est plus ou moins apaisé, parce qu'effectivement, 2009 avait marqué la conscience populaire et avait effectivement permis aux gens de réfléchir sur la cherté de la vie en Guadeloupe, qui est absolument abominable. Mais n'empêche que le fait que la grève ait duré aussi longtemps, beaucoup de gens en ont été très marqués. Par conséquent, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens soient disposés à entamer une grève aussi longue. N'empêche que les problèmes se posent, parce qu'effectivement, la situation économique et sociale est lourde, le chômage est très important, et par conséquent, les combats se mènent aujourd'hui tout au niveau social comme par le passé.
Vous dites, on n'a pas l'impression que les gens sont prêts à entamer des grèves aussi longues. On pourrait presque généraliser à l'ensemble du territoire français, Philippe Laurent. Comment expliquer le fait que cette exaspération ne se traduise pas véritablement par une explosion sociale un peu plus massive ?
Peut-être parce que les maires essayent de maintenir justement ce lien social. Je crois qu'il y a, effectivement... un peu partout, mais ça peut différer en fonction du contexte, de l'histoire, etc., du territoire, naturellement. Il y a un peu partout un sentiment d'individualisme qui s'installe, un sentiment un peu d'exaspération. Et je dois dire aussi que les discours qui sont tenus au niveau national ou dans un certain nombre de médias y participent. Et nous sommes amenés à essayer de relativiser ça et aussi à expliquer...
Vous voulez dire quoi ? Que les médias parlent trop de la crise, par exemple, c'est ça ?
Ils en parlent normalement, mais peut-être utilisent-ils des mots qui sont parfois trop forts et que surtout, ils ne mettent pas non plus en mouvement les citoyens eux-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire. Il faut aussi expliquer, on a un rôle de pédagogie très important, en leur expliquant que si les choses doivent aller mieux, c'est aussi avec leur engagement à eux que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout.
Alors vous allez justement nous expliquer comment vous mettez les citoyens en mouvement. Alors j'essaie de... peut-être déjà d'anticiper un certain nombre de critiques qui pourraient arriver à la fin de cette émission, puisqu'on parle de démocratie locale, et certains auditeurs vont peut-être nous dire « Mais attendez, vous parlez de démocratie locale et vous n'invitez que des maires, vous n'invitez pas, par exemple, des collectifs de citoyens qui ont leur mot à dire, qui peuvent participer aux décisions. » Alors, je précise, c'est vraiment pour avoir cette espèce de droit de suite par rapport au l'an dernier, et puis on est intéressé pour avoir votre point de vue, mais c'est vrai que c'est une critique qui peut nous être formulée à nous, médias, assez régulièrement, de dire ben voilà, pour parler de politique, il n'y a pas que les représentants qui peuvent en parler. Il y a aussi nous tous qui sommes citoyens. Est-ce que, en tout cas, ces reproches-là, ce sont des reproches que vous entendez et qu'on vous adresse à vous en tant que maire, Jacoberti ?
Alors, si vous voulez, ce que l'on a observé, hein, et comme j'ai pu le signaler, cette dernière campagne électorale a été un tournant, en fait, en tout cas dans la strate de commune qui est la mienne. Hein. Celle-là même, cette strate qui a vécu la proportionnelle, alors même que jusqu'à l'élection de 2008, nous étions dans le cadre du panachage. On a remarqué effectivement que la pratique des citoyens était de plus en plus à l'image de celle de l'Internet, du tweet, du Facebook, etc., avec une instantanéité dans le jugement qui est porté, alors même que les dossiers qui nous sont soumis sont de plus en plus techniques, complexes, et donc il y a lieu de mieux expliquer encore auprès des administrés. Donc ce paradoxe...
Donc vous y voyez quoi, une approche consumériste des citoyens qui demandent des résultats...
Extrêmement réactive et consumériste, vous avez tout à fait raison. Et finalement, très peu de temps pour expliquer justement la nécessité d'approfondir pour pouvoir porter une appréciation digne en fait des enjeux pour la commune.
Geneviève Darrieussecq.
Oui, alors la démocratie locale, ça se décrète pas, ça se met en œuvre. Nos concitoyens ont globalement envie de savoir comment ça fonctionne, de s'approprier les choses, de s'approprier les projets et d'être consultés.
Mais, et de participer aux décisions
aussi. Et de participer aux décisions. Alors vous voyez, moi j'ai fait une expérience excessivement intéressante et enrichissante sur ma commune. C'était avant les élections municipales, mais bon, ça va se traduire aussi après, c'est que nous avons fait travailler des habitants d'un quartier sur un projet urbanistique de rénovation d'un espace public de ce quartier. Et ils ont travaillé depuis le démarrage. C'est-à-dire, on ne leur a pas, comme d'habitude, montré ce que l'on avait pensé et fait réagir. Au contraire, ils ont co-construit avec des architectes urbanistes le projet. Et c'est vrai que c'est une expérience qui a été très enrichissante pour eux et pour nous aussi élus, parce que ça nous a permis de voir que dans des tas de domaines, on pouvait aussi travailler avec nos concitoyens et qu'ils étaient demandeurs de ce type de rapport avec et les élus et les projets de leur ville.
Ça suppose aussi peut-être, Jean-Claude Lambion et Philippe Laurent, d'être capable, d'être en mesure de déléguer une partie de ses pouvoirs. Quand on est maire, on se sent, j'imagine, un peu tout puissant, non, Jean-Claude Lambion ?
C'est-à-dire que quand on est maire, on est représentant de nos populations. Par conséquent, le peuple délègue déjà des pouvoirs au maire quand nous sommes. Et nous sommes responsables de ce pouvoir. Par conséquent, ils nous demandent des comptes également. C'est la raison pour laquelle, quand nous prenons des décisions au conseil municipal, on les prend au nom du peuple, forcément. C'est ça la démocratie également. Donc, c'est vrai que même pour renforcer la démocratie, lorsqu'on a un projet important, et on le soumet au peuple quand même, avant de prendre la décision définitive. Ou bien on lui explique les choses et il apporte un complément d'information, ou bien c'est des desiderata. C'est pourquoi chaque projet important que nous avons eu, nous avons toujours réuni le peuple. On a une grande place publique à Maranalo, et nous avons réuni le peuple dans la place publique pour qu'il donne son avis et pour que nous puissions nous sentir, je dirais, autorisés en quelque sorte à œuvrer, même si nous sommes persuadés que le projet que nous présentons, on a pris toutes les précautions pour qu'il soit correct. Mais on a quand même besoin de leur assentiment, de son assentiment, pour qu'on ait l'impression que, pour qu'il ait l'impression qu'on ne fait pas sans lui. Mais n'empêche que nous sommes, je dirais, dédiés, nous sommes responsables. Et par conséquent, la démocratie, c'est aussi cela. L'élection municipale, qui est le premier maillon de la société de la République française, c'est quand même le premier maillon. Et par conséquent, le maire qui est élu représente une population. Et il est habilité à agir en son nom.
Philippe Laurent, vous qui êtes maire depuis une douzaine d'années, est-ce que vous avez vu monter cette demande, justement, de partage un peu plus large du pouvoir ?
Je pense qu'il était déjà important, cette demande était déjà importante dans le passé. Ce qui a un peu changé, c'est précisément le fait que un certain nombre d'habitants ne souhaitent même pas ça. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment totalement acheteurs de services. En revanche, c'est vrai que les expériences de participation ou les démarches de participation se sont développées. Et lorsque, à la fois, on s'en donne les moyens en termes de temps et lorsque nous avons des citoyens qui ont envie de s'approprier la démarche. Parce qu'il faut aussi que les citoyens aient envie de s'approprier. C'est pas si simple. Il y a des choses très techniques. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Il faut que les gens prennent le temps de comprendre des contraintes économiques, juridiques, etc. dans un certain nombre d'opérations, etc.
Il faut aussi qu'ils aient l'impression que ces consultations-là, ils vont vraiment prendre en compte leur avis. Oui, c'est pas uniquement des consultations pour faire joli.
Alors nous avons mis en place au début des années 2000 ce qu'on appelle les conseils participatifs dans pratiquement tous les domaines de l'action municipale, qui rassemblent à la fois des élus, naturellement, et puis personnes qui ont déclaré leur intérêt. Il n'y a pas de sélection. Voilà, tous ceux qui souhaitent y participer, y participent.
On y ça fait fonctionne. Quoi dans ces conseils ? On y prend des décisions ou on y réfléchit ?
C'est-à-dire que soit ils émettent des propositions, soit on leur soumet des propositions, on demande de réfléchir, et parfois, ils participent également à la mise en œuvre. Je pense par exemple au conseil des aînés ou au conseil de jeunes. Ça fonctionne très bien. Mais le danger... l'écueil, c'est qu'il ne faut pas que ces personnes-là, après 3, 4, 5 années, deviennent elles-mêmes des professionnels et ne soient plus représentatives de la population. Donc il y a un effort de renouvellement, ça veut dire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Hein.
Et est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous, un danger peut-être pour la légitimité de la fonction de maire, Jacques Auberti ? C'est-à-dire à force d'ouvrir la consultation, à force d'ouvrir la décision, que le maire perde un petit peu de son pouvoir et de sa légitimité.
Alors justement, moi je ferais très volontiers la différence entre l'aspect légal que représente en fait l'organe délibérant et l'exécutif municipal qui lui est acquis, et surtout le fait qu'en permanence il doit reconquérir sa légitimité. L'ensemble du conseil municipal doit travailler à effectivement rendre l'ensemble de ses décisions absolument lisibles.
En permanence, ça veut dire pas seulement tous les 6 ans au moment d'élection municipale.
Exactement. Et donc veiller à être en lien direct avec le tissu associatif, très important, qui représente une masse de l'énergie locale, mais aussi, pourquoi pas, sectoriser la commune pour recréer en fait le débat et le débat oral. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir est-ce qu'il faut rentrer chez les gens via le petit écran, nous-mêmes, hein, savoir est-ce que les réunions publiques, là où nous avons finalement peu de fréquentation généralement, est-ce qu'il ne faudrait pas les filmer de façon à ce qu'elles soient consultables par les gens avec les pratiques qu'ils ont aujourd'hui.
Geneviève Dariussec.
Bon, moi, je crois que les citoyens ont envie de participer, de donner leur avis, d'être proactifs. Certains, hein, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, certains ne demandent rien du tout et n'ont pas du tout envie d'être mêlés à tout ça.
Et certains n'ont pas voté, par exemple.
En plus, c'est quand même l'élection municipale, c'est celle où il y a la plus grosse participation quand même dans notre pays. Hein. Donc c'est pour ça que moi, ça me laisse penser quand même que c'est un élu qui ne laisse pas indifférent la population.
Ça vous laisse penser d'ailleurs que vous êtes un peu plus légitime peut-être que d'autres élus parce que la participation est plus importante ?
Peut-être pas plus légitime, mais en tout cas, nous sommes des élus qui sommes respectés, je crois, par les habitants de nos communes. Et ils souhaitent participer, mais le pouvoir de décision, ils ne le demandent pas. Enfin, moi, je n'ai pas. Alors, moi, j'ai créé des conseils de quartier dans ma ville. Il y a 9 conseils de quartier. En plus, nous leur avons mis à disposition une enveloppe budgétaire, une petite enveloppe budgétaire pour faire des aménagements dans des quartiers. Ça fonctionne très, très bien. Mais ils savent très bien que c'est quand même le conseil municipal qui doit donner son accord et qui vote parce que le budget, eh ben, c'est quand même le conseil municipal, le maire qui décide de tout cela. Donc leur demande n'est pas de prendre la place des élus, leur demande est de participer simplement. Et je crois que nous avons... Alors ça demande beaucoup d'investissement, ça demande du temps, ça demande beaucoup de réunions, ça demande beaucoup de présence à tous les élus. Mais je crois que c'est aussi un facteur de cohésion sociale et c'est aussi un facteur de rencontre entre les habitants qui est absolument primordial.
Alors on a énormément de chance, hein, finalement, ce soir. 4 maires, 4 maires vertueux qui font en sorte que leurs administrés puissent s'exprimer pleinement. Jean-Claude Dambion.
Non, on peut dire que la population est respectueuse du pouvoir du maire, de l'autorité du maire. Et même si on donne la parole à la population, elle sait très bien que c'est pas elle qui va décider. Elle apporte des suggestions, elle propose, elle a envie de proposer, parce que beaucoup de gens, effectivement, se désintéressent, mais il y en a aussi qui veulent participer. Le fait de leur donner la parole, ils sont imprégnés, ils sont, comment dire, habilités à donner leur opinion, et ça, c'est important. Par exemple, on a un cimetière à Monalo qui est le plus beau de la Caraïbe, et même, apparemment, c'est le deuxième de France, c'est ce qui se dit.
Ça serait quoi le premier plus beau cimetière de France ?
Ben, selon les Français, ce serait...
Le Père Lachaise ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, parlons du deuxième, donc.
Bien, alors donc, ce cimetière, bon, était mal organisé. On a décidé de mettre en place un règlement intérieur et on a décidé également de réhabiliter les tombes et faire en sorte que les concessions soient réactivées, par conséquent, les choses se mettent à jour. Et bien, on a réuni des gens au bourg, on a un ancien bourg, on a également fait des réunions et les gens ont été nombreux à y participer et ont accepté les nouvelles règles qui leur ont été imposées. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de clameur, les gens ne sont pas rebellés pour dire non, on ne paye pas. Non, ils ont dit ok, on va respecter les règles. Donc l'autorité a été respectée.
Mais est-ce que ça veut dire ça, par exemple, Jean-Claude Lombion, que vous ressentez la nécessité, en cours de mandat, de faire valider régulièrement des décisions ?
Lorsqu'il y a eu, je dirais qu'il y a eu des problèmes par le passé qui ont fait que elle n'est pas respectée, il faut le faire. Pour que les gens comprennent que finalement, il y a des règles à respecter. Par conséquent, à partir de maintenant, il faut les respecter. C'est pareil, tous les projets, comme par exemple, on a mis en place également, dans le cadre du développement du territoire, un programme stratégique d'éco-développement et d'éco-citoyenneté. Là aussi, il a fallu expliquer. Il a fallu que les gens adhèrent au processus, au projet. Et ensuite, on a pu agir avec d'autres techniciens au niveau guadeloupéen. Mais les gens ont été conscients qu'ils étaient informés, ils étaient prêts à nous donner leur quitus pour pouvoir agir. Donc là, effectivement, il y a une concertation qui est mise en place, une communication qui est importante pour l'avenir du territoire.
Est-ce qu'il vous est arrivé aux uns et aux autres d'avoir à changer d'avis après avoir consulté la population ? C'est-à-dire, pas être seulement dans une approche explicative, mais aussi peut-être de rechercher des conseils pour ensuite prendre une décision, Philippe Laurent ?
Oui, naturellement. Par exemple, l'aménagement de voirie. Prenons ça, c'est quelque chose d'assez simple, mais enfin, les gens... c'est quotidien pour eux, hein, naturellement. Donc, lorsque ces aménagements sont décidés, il y a 1, 2, 3, parfois 4, 5 réunions de riverains, parce qu'il faut savoir où on va mettre le stationnement, etc. Enfin, c'est des discussions, c'est assez animé, parfois, d'ailleurs. Hein. Et puis, à la fin, parfois, on vous dit, bon, écoutez, monsieur le maire, là, nous, on ne peut pas se mettre d'accord, c'est vous qui êtes élu, il faut que vous décidiez. Alors je dis d'accord, je décide, mais à ce moment-là, vous ne venez pas.
Vous n'êtes pas m'embêter après.
Oui, d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe parfois. Mais souvent, ça, on arrive à un consensus. Et donc, là, il y a une évolution, naturellement, du projet qui peut être faite. Ça, c'est un exemple simple, concret, mais ça peut être le cas dans d'autres sujets. Lorsqu'on parle alors, d'aménagement global, de plan local d'urbanisme, etc. Là, c'est plus compliqué, mais là, on a aussi un processus de concertation qui est beaucoup plus développé et qui est en partie officiel avec l'enquête publique, etc. Donc, on a quand même la possibilité dans notre pays, à la fois par la volonté des élus, mais aussi par les textes qui existent, de faire participer les citoyens aux décisions, à condition que ceux-ci le veuillent.
Je vois qu'on acquiesce beaucoup du côté du Sud-Ouest, Geneviève Darrieussecq et Jacques Auberti.
Oui, ben, j'acquiesce sur la voirie. En fait... Je donne des exemples, les pistes cyclables. Alors moi, j'ai des associations qui font du vélo, mais ce sont des utilisateurs. Donc ce sont des utilisateurs qui connaissent le biais des aménagements. Et c'est vrai que nous avons des services techniques qui nous font des propositions qui ne sont pas toujours superbement adaptées aux utilisateurs. Donc ils arrivent à nous faire modifier les projets. Par contre, il est vrai que sur des très grands projets, des projets d'envergure... on peut discuter à la marge de petits détails, mais c'est vrai qu'ensuite, bon, les choses sont peut-être plus complexes.
Jacques Auberti, quand on est maire d'une petite commune comme la vôtre, 2400 habitants environ, est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué justement de gérer la vie de ses concitoyens? Parce que j'imagine que vous les connaissez quasiment tous.
On est extrêmement sollicité en tant que personne. Hein. Il n'y a absolument pas d'écran. Et donc, le maire doit être présent partout, en tout cas doit se doter des moyens, justement, pour répondre et répondre rapidement. On a mis en place, effectivement, un certain nombre de réunions de concertation. Et un des sujets qui est particulièrement sensible dans beaucoup de communes de France, c'est celui de l'éducation, notamment avec la refondation de l'école. Et on a été amené effectivement à prendre en considération réellement la vision qu'avaient les parents de ces temps-là. Et le maire est en prise directe, d'autant plus qu'en fait, il est aussi, parfois, il est aussi parent d'élève.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
8 mois après les municipales, comment va la démocratie locale? Discussion avec Geneviève Darrieussecq, Jacques Auberti, Philippe Laurent et Jean-Claude Lombion. Alors ça tombe bien que vous me parliez de la réforme des rythmes scolaires, Jacques Auberti. Alors rassure, on ne va pas se lancer dans un débat sur fallait-il ou pas la faire, mais c'est intéressant aussi de voir que dans ces questions de démocratie locale, bien entendu, il y a la question du rapport avec vos administrés, mais il y a aussi la question du rapport avec les autres lieux de pouvoir et notamment les décisions qui viennent de tout en haut. Si j'ose dire, c'est-à-dire de l'État. Alors, j'ai vu que pour ce 97e congrès de l'AMF, Jean-Claude Lombion, il avait notamment été question du jacobinisme dénoncé par les maires qui estiment qu'on ne leur laisse pas assez de marge de manœuvre pour prendre des décisions.
Je l'ai dit hier également lors de l'Assemblée des élus de l'Outre-mer, j'ai parlé du jacobinisme également. Mais en matière de rythme scolaire, par exemple, lorsque la réforme est sortie, ils n'ont pas appliqué la réforme tout de suite. Que nous avons fait à Mornalo, nous avons décidé de mettre en place un comité de pilotage pour réfléchir d'abord à comment l'appliquer. Parce que nous avons fait beaucoup de travail dans de l'éducation à Mornalo, nous avons pensé qu'il fallait réfléchir avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les agents communaux, avec les syndicats, comment on allait mettre en place ces choses. Et par conséquent, on a eu beaucoup de réunions nous permettant d'élaborer un projet pour pouvoir présenter à la population.
Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été suffisamment entendu, alors sur ce sujet ou sur d'autres, mais est-ce que le déficit finalement démocratique dont on parle beaucoup ces temps-ci, vous le subissez vous aussi comme maire?
Ben, on a réussi à, je dirais, à endiguer les choses, à faire en sorte que les gens comprennent le pourquoi la nécessité de cette coopération. Et c'est vrai que ça a marché. Et au point qu'aujourd'hui, nous avons, en tant que président des maires en Guadeloupe, rencontré le recteur, qui a trouvé que l'initiative chez nous était intéressante et nous a proposé un séminaire avec le rectorat pour parler de ces questions-là. Par conséquent, on a une relation avec la population, mais qui, à travers le résultat de l'action, eh bien, influence également les décisions, je dirais, à un niveau supérieur qu'est le rectorat.
Ça peut faire partie des revendications, celle de l'Association des maires de France, Philippe Laurent, donner aux maires peut-être davantage de pouvoir d'adaptation des lois ou en tout cas... Et en amont, être davantage concerté.
Il ne faut peut-être pas aller jusque-là, c'est le pouvoir d'adaptation des lois, tout de même. Enfin, tout de même, ça fait donc 30 ans que la décentralisation a été a été mise en œuvre. Les maires aujourd'hui ont beaucoup changé par rapport à ce qu'ils pouvaient être il y a 50 ans. Ce sont des gens qui d'abord sont beaucoup mieux formés. Plus professionnels, avec des services aussi qui sont compétents et des administrations compétentes, y compris même dans des communes de taille moyenne. Et donc, nous avons nous-mêmes aussi conscience de ce qu'est l'intérêt général de nos territoires. Et naturellement, nous estimons...
Vous voulez dire qu'ils avaient peut-être davantage besoin autrefois d'être
oui,
un petit peu drivés.
Naturellement, d'être accompagnés par les services d'État qui étaient très présents dans les territoires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons le sentiment que parfois... nous pourrions prendre des décisions un peu différentes parce que sur notre territoire, ce serait l'intérêt réellement et du territoire et de nos populations. Il y a manifestement un retour vers une centralisation de la décision, vers une volonté qui est surtout d'ailleurs celle de la haute administration, plus que celle d'ailleurs des élus nationaux, une volonté de niveler sur l'ensemble du pays les choses de la même manière. C'est totalement contradictoire avec la diversité de notre pays.
Vous la ressentez, cette recentralisation, Geneviève Darrieussecq, et vous l'expliquez comment, si oui ?
Écoutez, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, sinon qu'elle, je la trouve un peu effrayante en tant qu'élu local. Nous sommes soumis de plus en plus, et pourtant je ne suis pas une vieille élue, puisque je suis élue que depuis 2008. Auparavant, j'étais une simple citoyenne. Je trouve que nous sommes soumis à de plus en plus de demandes, d'exigences qui viennent d'en haut. Je prends un exemple, la politique de la ville, les nouveaux quartiers de la politique de la ville. J'ai sur mon territoire un quartier dans ma ville, un quartier dans la ville à côté, c'est la même agglomération. On nous demande, une loi qui passe, des décrets, on nous demande début juillet de définir des périmètres, on nous demande pour la fin de l'année d'avoir fait un contrat de ville, on nous demande de mettre en place des conseils citoyens qui doivent donner leur avis sur les contrats de ville. Enfin, des choses dans un temps, c'est absolument irréalisable.
Mais là,
des
ça veut dire qu'on vous donne plutôt davantage de responsabilités. On ne vous en enlève pas.
On nous en enlève pas. Parce qu'on nous enlève la possibilité, on nous enlève de la souplesse. Je crois que la politique à l'heure actuelle, et à tous les échelons, elle aurait besoin d'agilité et de souplesse. Et c'est exactement, on est en train de recréer quelque chose qui est exactement l'inverse. Les grandes régions risquent d'être, je dis bien risquent d'être, des monstres administratifs qui manqueront de souplesse. Sur le plan national, l'État lui-même, au lieu d'être moins pesant, de conseiller, mais pas de donner des dates butoirs irréalistes et de nous mettre une pression permanente, devrait nous laisser un petit peu plus maître de ces dossiers qui sont des dossiers importants, essentiels pour la population, mais qui demandent une approche un petit peu plus diversifiée selon les territoires.
Jean-Claude Dambion.
Oui, je crois qu'effectivement, l'État doit être plus à l'écoute des territoires lointains surtout. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas appliquer les mêmes décisions ici et en Guadeloupe, parce que c'est 1000 km. Parce qu'effectivement, on doit tenir compte des particularismes des territoires et adapter, je dirais tropicaliser un peu les décisions. Car c'est vrai qu'effectivement, même si nous respectons les règles et les lois de la République, mais il est évident que quand on est à 8 000 km ou voire à 15 000 en Réunion ou ailleurs, et les conditions, les modes de vie sont différents, le climat, la température est différente, on ne peut pas imposer les mêmes choses. J'ai eu un exemple hier, par exemple, lors de la réunion des maires, de l'Outre-mer, où le maire de président des maires de Guyane disait que, par exemple, on ne tient pas compte du fait qu'un gosse qui va en école primaire se réveille à 14h du matin pour prendre la pirogue pour aller à l'école. Donc, on peut pas, l'équipe scolaire ne peut pas s'apprécier de la même façon que sur un territoire français, métropolitain. Par conséquent, on doit tenir compte de tout cela et ne pas rester à Paris, décider sans tenir compte de ces réalités-là.
Alors, il faudrait tropicaliser les décisions, comme vous dites, Jean-Claude Dambion, quand on est du côté des Antilles. Est-ce qu'il faudrait peut-être prendre davantage en compte l'aspect rural d'une majorité, toujours une majorité et largement de communes, Jacques Oberti ?
Et même, je dirais, il faut même assurer de la différenciation entre le rural. Nous avons du rural périurbain, nous avons du rural beaucoup plus profond. Et justement, hein, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là de faire en sorte de pouvoir décliner les politiques, notamment en partenariat avec le département qui assure la solidarité territoriale et les régions, et les intercommunalités, naturellement, faire en sorte d'avoir beaucoup plus de souplesse dans l'application adaptée au territoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, je prendrai un tout petit peu le contre-pied, c'est vrai que le maire doit être de tous les combats. Il doit être du combat de l'intercommunalité, il doit être du combat du département, de la région et du national, sans doute beaucoup plus qu'auparavant. Ça demande une énergie très importante, mais ceux qui veulent s'en donner la peine peuvent infléchir effectivement les décisions.
Comment il faut comprendre cette notion de combat que vous évoquez, c'est-à-dire combat de l'intercommunalité, c'est-à-dire il faut se battre au sein de l'intercommunalité pour se faire entendre, c'est ça que ça veut dire?
Alors, il faut se battre au sein de l'intercommunalité pour se faire entendre, surtout dans un contexte où l'intercommunalité prend de l'importance et de nature à mutualiser effectivement les services et donc éviter effectivement qu'elle s'éloigne du citoyen et donc se donner, comme nous l'avons fait sur notre territoire, les moyens de revenir vers le citoyen, d'avoir des élus qui sont très proches du terrain, très proches des maires, très proches des bénéficiaires des services donc, qui ont pu être transférés.
Philippe Laurent.
Oui, je crois que dans ce domaine-là, mais dans d'autres aussi, notre pays a un problème avec un mot, c'est la confiance. Voilà. Nous avons le sentiment, en réalité, que les pouvoirs nationaux ne font pas confiance, en tout cas pas suffisamment confiance aux acteurs locaux. Et pas seulement les maires, hein, c'est vrai aussi des acteurs économiques ou des acteurs associatifs. Voilà, on a le sentiment d'être toujours pris pour des petits garçons ou des petites filles qui ne sont pas à même d'assumer totalement les responsabilités et d'incarner l'intérêt général.
C'est quoi ça? Donc, ça vient de la tradition jacobine?
Oui, naturellement. C'est la tradition jacobine. Et si on ne rompt pas avec ça, avec ce sentiment de défiance permanent, on n'en sortira pas. Il faut laisser de l'initiative locale, il faut faire confiance à ce qu'on appelle l'intelligence territoriale, parce que sur nos territoires, les gens connaissent leur territoire, ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont besoin de conseils parfois. Donc, dans un cadre déterminé qui est le cadre national, je pense que nous pouvons aller beaucoup, beaucoup plus loin dans cette délégation d'initiatives.
Alors, cette intelligence territoriale, elle va être amenée à être assez plastique avec la réforme territoriale en cours avec la réforme des régions. Il y avait cet après-midi à l'Assemblée nationale le vote en deuxième lecture sur cette réforme pour les régions. Les députés ont adopté une France avec 13 régions. Il va y avoir prochainement une commission mixte paritaire pour essayer de se mettre d'accord avec les sénateurs. Et puis à l'horizon 2020, il y aura la réforme des départements, leur suppression peut-être sans doute. Est-ce que, pour vous Geneviève Darrieussecq, ne plus avoir cet interlocuteur-là au niveau départemental, est-ce que ça peut contribuer à éloigner peut-être encore davantage les maires des centres de décision qui sont au-dessus de vous?
Écoutez, moi, je ne sais pas trop pour les départements, parce que vous dites quelque chose, mais il a été annoncé...
C'est pas encore très clair.
Oui, pas vraiment. Donc, c'est même pas clair du tout. Donc, ce qui est certain, c'est que les choses ont été prises par le bout des régions, et d'agrandir les régions. Moi, effectivement, qui étais plutôt favorable à garder des régions telles qu'elles étaient et peut-être à diluer un petit peu les compétences du département en leur gardant l'action sociale, parce que c'est bien sur un département qu'on puisse avoir une action sociale un peu unifiée sur un département. Là, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est dans une très grande région, effectivement, la disparition...
Ce sera quoi d'ailleurs, région, vous, donc Mont-de-Marsan, c'est les Landes?
C'est l'Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, la plus grosse région de France. Quelque chose qui va être, j'espère, pas un mammouth, parce que ça se déplace pas vite, qui va être une très, très grosse administration et qui va être, effectivement, avoir beaucoup moins de souplesse et beaucoup moins de finesse dans les décisions qu'elle pourra prendre, puisqu'elle sera à un niveau beaucoup trop important. Donc c'est vrai que là, la disparition des départements nous paraît peut-être dans un milieu où il y a quand même des zones très rurales, avec des petites communautés de communes, des petites intercommunalités. Il me semble que la disparition complète des départements, là, est peut-être discutable.
Jacques Auberti.
Enfin, moi, je parlerai beaucoup plus des fonctions remplies par le département, fonctions essentielles. Hein. En Haute-Garonne, nous avons deux fonctions majeures. La solidarité territoriale qui permet d'éviter l'exode, et non des moindres, une redistribution notamment d'une grande partie de la richesse créée par la métropole toulousaine, et puis l'action sociale qui assure effectivement, comme nous en parlions l'an dernier, la cohésion sociale. Nous ne voyons pas aujourd'hui comment éventuellement d'autres collectivités qui se réuniraient à l'échelon qui pourrait rester l'échelon administratif du département, comment elles pourraient avoir exactement la même vision, notamment avec la métropolisation, hein, effectivement. Donc nous avons aujourd'hui une équation à résoudre, mais dans cette équation, il y a deux fondamentaux, cette solidarité territoriale et effectivement les moyens d'assurer la cohésion sociale partout, avec une égalité, une équité, je dirais, d'accès à l'ensemble de nos administrés.
Alors, une des philosophies qui sous-tend cette réforme territoriale, c'est notamment le fait de faire des économies, c'est-à-dire on reconcentre les lieux de pouvoir pour que ça coûte moins cher. Bon, on verra bien à l'usage si c'est le cas ou pas. Mais est-ce que, en tant que maire, par exemple Jean-Claude de Lombion, vous y voyez aussi une menace pour l'échelon communal ? Vous dites, bah, peut-être après nous... Le prochain stade, ça va être ça, supprimer un maximum de communes, les regrouper dans davantage d'intercommunalités et en faire des centres de décision uniques.
Si la situation est différente, dans la mesure où nos petites communes ont 2000 habitants, on a appelé 3 communes sur 32 qui ont 2000 habitants, moins de 2000 habitants. Les autres ont 5000, 6000 jusqu'à 60000 habitants pour les abîmes. Donc c'est pas la même situation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dès le départ, avec la régionalisation, on s'est rendu compte que nous étions un département, le département de la Guadeloupe, qui est devenu une région Guadeloupe sans pour autant que le département ait changé, que le périmètre ait changé. Donc on a une région monodépartementale, ce qui est une absurdité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a deux conseils, un conseil régional, un conseil départemental sur le même territoire. Ça veut dire qu'au lieu d'économie, on a, je dirais, du gaspillage. Parce qu'effectivement, on a des élus qu'on retrouve dans les deux assemblées, conseil régional, conseil régional, ce n'est pas la règle. En France, une région est composée de certain nombre de départements. En Guadeloupe, une région est un département. En Martinique, c'est pareil. En Guyane, c'est pareil. Donc il fallait effectivement, je parlais d'adaptation des lois, il fallait adapter à ce moment-là et se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les lois ne prévoient pas justement qu'un département soit également une région. Et maintenant, je pense qu'au lieu d'avoir 80 personnes comme élus, 84, 83, on en aurait 43, 42, et on pourrait gérer mieux, et les communes continueraient à jouer leur rôle. C'est pourquoi on parlait de souplesse tout à l'heure. Il faut effectivement une souplesse en tenant compte des régions, de leurs besoins, de leur situation, l'essentiel étant de faire avancer la population, de créer des emplois, etc. etc.
Voilà. Malgré les tentatives incessantes pour éradiquer le fait communal sous couvert de rationalisation et d'économie supposée, le fait communal résistera. Je cite Philippe Laurent dans une tribune publiée dans l'Humanité. Le fait communal résistera.
T'as bon journal.
Ah oui, absolument. Oui, le fait communal résistera. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a aucune menace, ça ne peut pas disparaître.
Écoutez, je crois que d'abord, on parle beaucoup d'institutions et pas beaucoup de politique publique. Hein, c'est ce que disait notre collègue. Vous savez, les institutions en elles-mêmes, elles ne coûtent pas. Ce qui coûte, c'est les politiques publiques qu'elles mettent en œuvre. Hein. C'est pas parce que vous allez fusionner deux régions que vous allez diminuer le nombre de lycées, le nombre de trains qui fonctionnent, etc. Ça, enfin, ou alors, faut le dire, hein, si c'est pour ça. Faut le dire. Si c'est pour diminuer le nombre de lycées, diminuer le nombre de trains, faut le dire.
Et c'est pas parce que vous allez regrouper des communes en intercommunalité.
Exactement.
Bah là, on va arrêter d'en faire.
De quoi ? Des communes ou des intercommunalités ?
Des intercommunalités.
Oui, je crois que nous avons... Eh bien, écoutez, justement, moi, je pense que nous avons atteint, globalement, un niveau d'intégration intercommunale qui ne peut pas aller beaucoup plus loin, sauf à remettre en question l'équilibre qui existe aujourd'hui, qui est déjà assez fragile. Je pense que, je pense au fait communal, je pense à cette alchimie qui existe sur un territoire d'une certaines tailles, plus ou moins importantes, avec un maire, un conseil municipal qui a une légitimité forte, avec des habitants qui s'identifient à ce territoire, parce qu'ils s'identifient à ce territoire, c'est des territoires auxquels ils s'identifient le plus, avec naturellement le pays, hein, et que ce fait communal-là est très fort et qu'il est nécessaire aussi dans cette période de mondialisation. C'est la question des racines des habitants. Ils ont besoin de cette proximité.
Bon, bah donc on a des chances, j'imagine, de vous revoir dans les prochaines années, puisque bah, je ne sais pas ce que l'avenir nous prêtera. Enfin, en tout cas, on peut se dire qu'on va se réunir comme ça chaque année pour le Congrès des maires de France, si vous voulez bien, pour continuer à prendre un petit peu le pouls de la population. D'ailleurs, on peut se réunir jusqu'à quand avec vous quatre, Geneviève Dariussec,
jusqu'en 2020.
Ouais, pas plus loin, ça sera votre dernier mandat.
Ah, ça, on ne sait pas. Ça, c'est les électeurs qui décident.
Vous n'êtes pas dit les uns les autres, tiens, à un moment donné, je vais arrêter et je sais à quelle date. Non, pas de réponse là pour l'instant. Bon, ben, je vous reposerai la question l'année prochaine. Vous avez le temps, voilà. Vous avez un an pour y réfléchir. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jean-Claude Lombion, Philippe Laurent, Geneviève Dariosec et Jacques Auberti. Si ces questions de démocratie, je sais qu'elles vous passionnent, je vous renvoie également à la revue Le 1 de demain, qui s'intitule « Comment reprendre le pouvoir ?» Voilà, un certain nombre de réflexions là aussi sur la façon dont on peut mettre en œuvre d'autres formes de démocratie. Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous quatre. Merci aux auditeurs qui peuvent continuer à poster leurs contributions sur notre site franceculture.fr, la page du grain à moudre.